Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir avec un événement ce soir encore, puisque l'homme politique le plus populaire du pays, en tout cas si l'on en croit les sondages, sera avec nous d'ici un quart d'heure. Édouard Philippe qui publie avec Gilles Boyer Impressions et lignes claires chez Jean-Claude Lattès. Les deux hommes, les deux inséparables qui répondront également à vos questions. Vous pouvez nous les poser dès à présent sur l'appli RTL, sur les réseaux sociaux ou en nous appelant au 3210. Édouard Philippe, Gilles Boyer, c'est à partir de 18h15. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce mercredi 28 avril.
Et à la une ce soir, un témoignage exclusif, celui du père de l'auteur de l'attentat de Rambouillet. Il était fou, dit-il ce soir, vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal également, le déconfinement qui se précise et cette fois pas d'allocution ni de conférence de presse. C'est une info RTL dans la presse régionale qu'Emmanuel Macron détaillera tout ça. Et puis du foot, bien sûr, le PSG n'est plus qu'à 3 matchs de son rêve. Demi-finale aller de Ligue des Champions, c'est ce soir face à Manchester City.
La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain il y aura du gris, il y aura de la pluie, il y aura de la pluie, il y aura du gris.
Exactement, vous avez bien résumé entre l'Aquitaine et la Franche-Comté. En tout cas, ça restera chargé, c'est vrai, toute la journée avec beaucoup de nuages, des pluies soutenues voire orageuses dans le sud-est, de la neige en montagne et des averses plus éparses dans le sud-ouest. Au nord, un ciel variable entre nuages et éclaircies, même si dans la matinée c'est vrai qu'il y aura encore quelques nuages et quelques gouttes sur le nord-est. Ça ira mieux en journée. Côté température, elles vont baisser au nord et seront généralement comprises entre 11 et 19 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et on commence donc avec ce document RTL, une exclusivité, les premiers mots du père de l'assaillant de Rambouillet. Il a passé 4 jours en garde à vue et témoigne ce soir sur RTL. Valentin Boisset, bonsoir, c'est vous qui l'avez rencontré.
Oui, c'est un monsieur de 72 ans, Salem. Il habite toujours dans le petit studio qu'il partageait avec son fils. Alors aujourd'hui, il est rentré en bus, seul, après avoir passé la journée avec des proches.
Fatigué, je suis malade.
Ces derniers temps, sa relation était devenue impossible. À l'intérieur même de la chambre, il n'adressait plus vraiment la parole à son fils, qui s'est réfugié peu à peu dans la consommation de stupéfiants.
Toute la nuit, il ne dort pas, comme un fou, complètement. Et il fume beaucoup. Je parle pas beaucoup avec lui, sinon il va me tuer. Hein.
La peur de vivre avec son propre fils le jour de l'attaque, il l'a vu le matin pendant une prière.
Et mon fils reste dans la chambre. Il va faire les prières et j'ai dormi.
Puis Salem s'endort pour une sieste. C'est la police qui le réveillera dans l'après-midi. Il lui apprendra la nouvelle. Depuis, il se dit effondré, en particulier pour la victime Stéphanie. Il dit penser à ses enfants.
Moi, j'aime pas ça, les enfants. C'est pas normal, ça. Ça se fait pas, ça. Ah oui. Même mon fils, il m'en fout.
Ces dernières semaines étaient très fatigantes. C'est en ces termes que l'entretien s'achève. Salem dit vouloir désormais trouver un peu de tranquillité.
Un document signé Valentin Boisset à retrouver sur RTL.fr. Demain, Emmanuel Macron assistera aux obsèques de la victime de cet attentat, Stéphanie Monfermé.
Le chef de l'État qui prendra ensuite la parole vendredi sur la situation sanitaire. Cette fois, il devrait détailler le calendrier de sortie de crise. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure Jean Castex à l'issue du Conseil des ministres.
Le niveau de circulation reste élevé, mais nous sommes sur une vraie tendance à la baisse. Le nombre de cas quotidiens est passé en moyenne hebdomadaire de 38 000 cas au plus haut de cette troisième vague à 26 200 très précisément sur les 7 derniers jours. Il s'agit maintenant de nous projeter sur les modalités d'une sortie de crise, mais une sortie progressive et phasée dont les éléments seront présentés par le président de la République ce vendredi, plus précisément.
Et cette fois, pas d'intervention télévisée. C'est dans la presse écrite régionale que le chef d'État de l'État a choisi de s'exprimer. C'est ce que vous nous révélez ce soir, Vincent Derosier.
Oui, et l'allocution télé a pourtant été envisagée un temps, mais le 1er mai, il n'y a pas de journaux en kiosque. Et c'est dommage quand on souhaite assurer une forme de service après-vente des annonces. Le plan sera donc écrit noir sur blanc dans la PQR. Il y aura 4 étapes d'ici la fin du mois de juin, c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron. Et une extrême prudence pour une raison simple, le président ne veut plus de stop and go, desserrer les taux pour tout reboucler 15 jours plus tard. Emmanuel Macron pense que les Français ne l'accepteraient plus. Alors tout va se faire en douceur, la règle des 10 km va disparaître le 3 mai, le couvre-feu, lui, ne sera pas assoupli avant la mi-mai car la mesure est efficace. Jean Castex aurait même aimé la prolonger un peu plus, mais avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, le couvre-feu devra de toute manière être levé début juin. Ensuite, ça sera de la dentelle, promet un conseiller. Terrasse ouverte mi-mai, restaurant en juin, mais pas tous. réouverture des commerces, mais pas partout, des lieux culturels, mais avec des jauges de public. Le chef de l'État va devoir être très précis. Enfin, malgré les critiques, le gouvernement restera fidèle à sa stratégie de vaccination par tranche d'âge, mais Emmanuel Macron devrait une nouvelle fois mettre la pression sur tous les acteurs pour que les doses de vaccins disponibles terminent dans un bras et pas à la poubelle.
Voilà, grâce à Vincent Derosier, ce que devrait dire donc le chef de l'État dans la presse quotidienne régionale. Alors Vincent le disait à l'instant, Amandine, pas question de changer la stratégie vaccinale, en tout cas pas pour l'instant.
Selon les derniers calculs du service santé de RTL, près d'une personne sur deux éligible à la vaccination n'a toujours pas reçu sa première dose. La situation est très variable selon les régions. Résultat, et bien sûr le terrain, les choses virent parfois au casse-tête. Illustration à Saint-Avertin, c'est près de Tours. Là-bas, il faut s'organiser en temps réel pour éviter de jeter les doses, Christian Bonvert.
Absolument, ici aucune dose n'est jetée à la poubelle. Le lieutenant des sapeurs-pompiers Emmanuel Degnaud est formel.
Aujourd'hui, nous avons 917 doses, donc 917 personnes qui seront vaccinées sur ce site.
Mais certaines inscrites sur Doctolib sont parfois récusées par les médecins quand elles arrivent. Le maire de Saint-Avertin, Laurent Raymond.
Des personnes qui, peut-être sans scrupule, décident de faire fi des critères d'âge qui ont été établis. Ils rentrent, et puis sous contrôle du médecin, entre autres, il s'avère qu'ils n'ont pas les conditions d'âge ou de comorbidité, et un créneau qui était prévu se libère.
Il souhaite que les listes d'attente soient élargies et en fait part aux pompiers.
Je veux qu'on puisse prioriser nos personnels qui sont de l'enseignement, qui ont moins de 55 ans, qui travaillent aux proximités des enfants, et possiblement et rapidement les assesseurs lors des prochains bureaux de vote. Et en fait, à midi, un communiqué de presse du gouvernement est sorti.
Je n'ai pas vu s'il y avait sur ce communiqué un âge précis.
Aucun.
Donc effectivement, ces personnes peuvent prendre rendez-vous sur Doctolib, toujours. Auquel cas, s'il y a passé occasionnellement pour voir s'il y a une place, on les prendra en priorité si on a un récusé, bien évidemment.
Le maire va constituer dès demain des listes d'assesseurs et de personnel ainsi que des attestations nominatives.
À Christian Panvert à Saint-Avertin, près de Tours, pour RTL. L'actualité ce soir, c'est aussi la colère des salariés de la fonderie de Bretagne qui ne retombe pas. Après avoir retenu hier plusieurs membres de la direction, ils ont voté aujourd'hui la poursuite du blocage du site.
Dites-moi, qui a envie de travailler aujourd'hui ? Qui a envie ? Comme ça, c'est clair, quand je vous dis hier qu'on était en guerre, qu'on était dans le dur, je vous le confirme aujourd'hui, on tient, on ne bouge pas d'ici, on n'expédie rien.
350 salariés qui protestent contre la mise en vente par Renault de leur site. Ils ont ce matin reçu le soutien du président de la région Bretagne.
On parle de plan de compétitivité en France pour l'industrie. On dit que la France doit se réarmer, que la France doit assumer sa souveraineté industrielle. On ne peut pas dire ça d'un côté et voir les pièces de fonderie de Bretagne partir ailleurs en Europe ou hors Europe.
Loïc Chesnay-Girard, le président PS de la région Bretagne, il était au micro RTL de Nicolas Bobby.
On marque une petite pause et suite du journal, le PSG qui est à 3 matchs de son rêve européen et Georges Clounet qui lui rêve en bleu, blanc, rouge puisqu'il va s'installer chez nous, figurez-vous.
Et oui.
Ça vous plaît ça hein
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Ce soir, il y a donc du foot et pas n'importe quel foot, le PSG qui affronte Manchester City.
Demi-finale allée de la Ligue des Champions. Coup d'envoi, ce sera à 21h au Parc des Princes. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Au-delà de l'enjeu important, bien sûr, capital, on va avoir droit à du grand spectacle.
Bah oui, car tous les artistes sont là. Neymar, Mbappé, De Bruyne, aucun blessé, aucun suspendu. Deux grands entraîneurs. L'élève Pochettino face au maître Guardiola, chantre du jeu de possession. Sa seule obsession, confisquer le ballon à l'adversaire. Il veut le contrôle et il le clame, même en français.
Contrôle de la balle. My French is super. Extraordinaire. Contrôle de la balle. Yeah.
Contrôle de la balle. Quitte à être puni par les contres de Mbappé, peu importe, Pep Guardiola vit ou meurt avec ses idées.
Le football est un jeu tellement imprévisible. Vous pouvez avoir des tonnes d'occasions, les meilleures statistiques et perdre. Mais c'est pour ça que le football est fantastique. On va essayer de jouer notre jeu, en sachant très bien que parfois ce sera impossible car le PSG est une équipe fantastique et on verra ce qui se passe.
Voilà, des préceptes romantiques, ambitieux, mais qui payent. Manchester City a remporté 11 de ses 16 derniers déplacements en Ligue des Champions, donc après Barcelone et le Bayern. C'est un troisième monstre que le PSG doit renverser ce soir.
Il arrive à mettre du romantisme dans une demi-finale de Ligue des Champions. Il est fort quand même. Il est fort, Philippe Sanfourche. Vous serez au commentaire ce soir.
Mais tout à fait.
Avec Nicolas Jean-Giraud. PSG Manchester City à suivre donc sur RTL. RTL Foot, c'est dès 20h45. La bonne nouvelle ?
Tout de suite.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et celle-là, elle nous plaît avec
elle
Peggy.
Elle est amoureuse.
Georges Clounet s'installe, figurez-vous, dans le Var. L'acteur est sur le point d'acheter une propriété près de Brignoles. Ça devrait, Étienne Baudieu, être signé d'ici 15 jours.
Ah oui, il y a une belle, hein, très belle propriété, vous l'imaginez. Le domaine de Canadel, 170 hectares, dont 8 de vignes, des bassins, un petit lac, une piscine et au milieu, une magnifique bastide provençale. Alors évidemment, les projecteurs vont se braquer sur la petite commune de Brignoles pour le plus grand plaisir de son maire, Didier Brémond.
Il y a eu les années Saint-Tropez, hein, comme on disait, et aujourd'hui, eh bien, les gens se retirent un peu plus. La Covid accélère encore ces choses-là, et je crois que oui, ils se sentent bien chez nous, avec beaucoup de terrain, et puis un peu de tranquillité aussi.
Alors évidemment, les voisins des Clounets attendent avec impatience leur arrivée. Alison habite juste en face de l'entrée du domaine.
Ah oui, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il est déjà beau. Non, en plus, c'est un beau acteur, quoi. Déjà, je pense pas qu'il va déjà passer qu'une voiture. Ça sera déjà par hélico. Non, ça serait bien. Qu'on le voie au moins une fois. Prendre une photo aussi. Ouais, ça serait bien. Comme ça, je vais montrer à toutes mes copines.
L'acte de vente devrait donc être signé d'ici le 8 mai. On parle de plus de 10 millions d'euros, sans compter les travaux.
Étienne Baudu, donc du côté de Brignoles.
Voilà, si vous êtes agent immobilier du côté de Brignoles, vous avez une studette à vendre, ça peut intéresser Amandine, vous nous contactez, on lui fera suivre, hein, évidemment. Merci beaucoup à vous, Amandine. À tout à l'heure. Il a été Premier ministre pendant 3 ans. Inconnu en y entrant, il a réussi l'exploit d'en ressortir populaire. Avec son complice Gilles Boyer, il publie Impression et Ligne Claire. Édouard Philippe et Gilles Boyer donc sont les invités exceptionnels d'RTL Soir, et c'est tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Ils ont écrit ensemble Impression et Ligne Claire aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est donc ensemble qu'ils sont venus ce soir pour parler de ce livre, de ce qu'il raconte, de ce qu'il suggère et de ce qu'il fait semblant de ne pas dire. Gilles Boyer, député européen, et Édouard Philippe, maire du Havre, sont donc les invités d'RTL Soir. Bonsoir, monsieur le Premier ministre.
Bonsoir, Thomas Soto.
Bonsoir, monsieur le vice-premier ministre.
Bonsoir, non, ça c'est une expression que je réfute.
Bah, on va en parler.
Moi alors. Aussi d'ailleurs.
Depuis notre rencontre en 2002, nous avons partagé tous les combats, écrivez-vous. Votre livre, il est écrit à la première personne du pluriel, hein, avec ce nous qui vous englobe, qui vous protège aussi parfois, parce que c'est commode de ne pas dire exactement lequel des deux s'exprime. Ça évite parfois de trop se mouiller peut-être. On a le sentiment, hein, que vous avez co-gouverné le pays pendant 3 ans. Est-ce que ça a pu être le cas, Gilles Boyer ?
Absolument pas. D'abord parce que moi je suis très attaché, moi qui fais de la politique depuis longtemps, à la prééminence des politiques sur les conseillers. Moi j'étais un conseiller, alors avec certes une relation amicale, personnelle, ancienne, et aussi une complicité politique profonde avec le Premier ministre. Mais je n'étais qu'un conseiller et je n'ai pris pendant ces années à Matignon d'ailleurs aucune décision. Et c'est très bien comme ça.
Ça c'est sûr. Institutionnellement c'est le Premier ministre qui prend les décisions. Mais Édouard Philippe, est-ce que Gilles Boyer a pu vous faire changer d'avis parfois ?
Non, il a avec moi cette relation d'amitié et c'est un observateur et un connaisseur du monde politique très, très, très. Il a une parfaite connaissance du monde politique et il a un esprit très vif et très joueur parfois. Mais si on est sérieux, en aucune façon, il ne peut y avoir de confusion entre ceux qui sont désignés par un acte du président de la République et qui exercent des responsabilités, soit à raison de leur élection, soit à raison de leur nomination, et les conseillers. Moi, je ne l'aurais jamais accepté. Gilles ne se le serait jamais permis. Et d'ailleurs, je dois dire, et c'est tout à l'honneur de Gilles, que jamais il n'a eu de confusion sur le fait que le rôle d'un conseiller, c'est de donner des conseils, mais ça n'est pas de se substituer à celui qui prend les décisions, en l'occurrence le Premier ministre.
En tout cas, visiblement, vous avez vécu ces 3 années de manière très proche. Alors, on ne va pas pouler toute l'interview avec la question que tout le monde attend que je vous pose. Il y a déjà énormément de questions d'auditeurs là-dessus, donc on va faire simple. Si soudain, l'envie de déclarer votre candidature à la présidentielle, vous prenez pendant cet entretien, Édouard Philippe, le micro est ouvert, hein, vous pourrez y aller, on fera une pause et vous pourrez y aller. Vous serez candidat aux prochaines élections municipales au Havre ou pas, en 2026 ?
Est-ce que je fais au Havre aujourd'hui, comme maire, à nouveau, puisque je l'ai été entre 2010 et 2017, j'adore ça.
Oui.
Et je l'ai toujours dit, le métier de maire, c'est le plus beau mandat politique. J'aime ça, j'essaie de transformer ma ville. Elle vit une période à la fois difficile et exaltante. Je le fais en m'y consacrant pleinement et en essayant de le faire du mieux possible.
D'accord. Vous avez grillé votre joker langue de bois, hein, ça y est.
Ouais. Non, c'est pas de la langue de bois, c'est vrai. Et par ailleurs, vous voulez que je vous dise un truc dise quelque chose, excusez-moi. Je trouve que on parle souvent dans le monde politique, parfois dans la presse, mais souvent dans le monde politique avec beaucoup trop de désinvolture de ce que c'est que la présidence, de ce que c'est qu'une candidature à la présidentielle. Et je pense que cette désinvolture qui laisse à penser que, au fond, quand on a envie, ou au fond, c'est assez facile, laisse de côté une vérité qui est, que j'ai éprouvée, c'est que c'est un exercice redoutablement difficile, où on est soumis à un isolement pesant. Et je trouve qu'en parler avec désinvolture ne rend pas service au pays.
Donc c'est un sujet grave. Bon, sur les agendas politiques, vous écrivez, hein, la vérité c'est qu'il n'y a pas de tour et qu'en attendant le sien, on prépare celui des autres. Ce livre, c'est à la fois un témoignage, un programme politique, un droit d'inventaire, un retour d'expérience. Vous êtes joueur, hein, aussi, vous aimez tous les deux écrire entre les lignes, comme si vous disiez tiens, on va leur mettre ça entre les pattes et on va voir comment les éditorialistes et les journalistes vont s'en dépêtrer. Gilles Boyer, en quoi Matignon a-t-il changé, Édouard Philippe? Qu'est-ce qui a changé chez lui entre l'avant et l'après Matignon?
Ah, c'est une question difficile. D'abord, nous racontons dans le livre à quel point, lorsque la perspective de la nomination se précisait, c'est-à-dire fin avril, début mai 2017, il y avait la peur qui est peut-être analogue à celle d'un artiste qui, avant d'entrer en scène, qui regarde à travers le rideau et qui voit la salle pleine du temps où elle pouvait être pleine. Il y a d'abord cette peur, cette angoisse que nous, on assume assez bien, assez volontiers, qu'on a partagé à des niveaux différents, et qui, pour nous, était aussi un gage de des questions qu'on pouvait se poser sur la capacité à faire, sur l'étendue des responsabilités qui allaient peser sur les épaules d'Edouard s'il était nommé. Donc c'était un moment important.
Mais trois ans après, il en est sorti différent ou pas? Est-ce que c'est le même homme ou pas?
La barbe a blanchi.
Oui.
Ouais, pas un peu.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est tous ceux qui ont exercé le pouvoir, les présidents, les premiers ministres, les photos avant, après l'exercice des fonctions. On a quand même souvent...
C'est cruel.
Et ça vaut aussi pour les conseillers, d'ailleurs, du reste. On a une transformation physique parce que c'est des fonctions extrêmement prenantes et difficiles physiquement. Est-ce qu'il a changé? J'ai trouvé d'abord qu'au premier jour, le premier jour où il a pris ses fonctions, ce trac a disparu. Et ça, c'est peut-être l'ami qui parle, l'ami qui l'a observé. Et ça, c'était pas gagné, c'était pas évident. Et du moment où il a franchi la porte de Matignon, j'ai vu qu'il avait pris en main le costume de la fonction.
Philippe.
Ma barbe a blanchi beaucoup, et je pense que c'était lié au stress et au boulot.
Mais vous auriez pu le cacher, ça. Vous avez choisi de l'assumer. Pour Montenot, vous auriez pu avoir un postin de la barbe, on peut la couper, on peut. Vous avez choisi de l'assumer comme un stigmate du pouvoir,
non,
c'est ça?
Non, je vais vous dire. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui doivent vivre avec cette maladie qui s'appelle le vitiligo. Certaines avec des maladies qui sont plus visibles et plus difficiles. Parfois, on se fout d'eux. Parfois, ils sont en but à des critiques. Bon, voilà, j'ai ça, c'est comme ça. C'est pas grave. Et j'assume très bien ça. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on sort de cette expérience transformée. Alors, on est toujours soi-même. En tout cas, moi, j'ai toujours essayé de rester moi-même. On en sort transformé parce qu'on a vu des choses, on a appris des choses. C'est d'ailleurs un des objectifs de la rédaction de ce livre. C'était d'essayer de montrer que on traverse des moments, des décisions à prendre, des situations qui vous impriment tellement fortement que vous apprenez. Alors, ça veut pas dire que vous ne savez rien en commençant, et ça veut pas dire que vous savez tout après. Ça veut simplement dire que l'honneur et la chance qui vous est donnée d'exercer des responsabilités vous permet littéralement d'apprendre des choses sur la France, sur l'État, sur le monde, sur les Français parfois, sur vous-même aussi.
Vous citez Jean-Pierre Raffarin qui décrivait en ces termes la qualité de son sommeil pendant son bail à Matignon. Je dors comme un bébé, je me réveille toutes les deux heures et je pleure. Alors on peut le comprendre.
Il a quand même le sens de la formule.
C'est vrai. Est-ce que le moindre signe de faiblesse peut être fatal à un premier ministre? Comment on gère ça au quotidien, ce côté? Il faut surtout pas douter, ou il faut pas montrer qu'on doute, ou il faut pas montrer qu'on a peur?
Ah, mais je crois pas qu'il faille pas douter. Moi, je crois pas du tout qu'il faille pas douter.
Vous en avez eu des vrais doutes?
Oui, bien sûr. Mais tout le temps, vous vous posez plein de questions. Vous doutez, vous demandez si vous prenez la bonne décision. Vous demandez si, alors que cette décision vous paraît bonne et qu'elle est peut-être impopulaire, il faut quand même la prendre. Vous demandez si, bien sûr, vous doutez. Simplement, moi, je n'ai jamais écarté l'idée de douter. J'ai essayé d'écarter complètement l'idée de m'énerver et de rester, si possible en toutes circonstances, calme et concentré. Mais douter, bien sûr que vous doutez. Et en même temps, il ne faut pas que ce doute vous interdise de prendre des décisions ou d'agir. C'est normal d'avoir des doutes, mais il ne faut pas que ce doute vous paralyse.
Qu'est-ce que vous lui disiez?
Qu'est-ce que je lui disais? À Matignon, il y a chaque journée des dizaines de décisions à prendre, certaines qui sont finalement à la fin assez simples et d'autres d'une redoutable complexité. Et donc, on a beaucoup parlé du doute, on a beaucoup parlé des moments où Edouard a admis qu'il ne savait pas, par exemple au début de la crise du Covid, et c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas et qu'on ne sait d'ailleurs probablement toujours pas. Mais tout ça, je trouve que ce sont des sentiments sains, que peut-être les personnalités politiques ont par le passé refusé d'admettre et d'assumer. Mon rôle parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres conseillers qui étaient eux extrêmement talentueux à Matignon, c'était de donner à Édouard tous les arguments. Et peut-être de se faire souvent l'avocat du diable, de se dire qu'est-ce qui se passe si on décide ceci, qu'est-ce qui se passe si on décide cela, sachant qu'on a souvent le choix entre des décisions qui de toute façon vont susciter la polémique, la contestation, parce que ce sont des décisions complexes, et si elles arrivent à Matignon, c'est parce qu'elles n'ont pas pu être tranchées au niveau inférieur.
Et il y a des dossiers qui tournent mal, vous racontez votre sentiment d'impuissance quand éclate la longue crise des Gilets jaunes. Ce mouvement, personne ne l'a vu venir, personne ne le comprend, personne ne le contrôle, mais on explique au gouvernement qu'il aurait fallu l'anticiper, qu'il faudrait le comprendre, et qu'il faudrait y mettre fin. C'est pas un formidable sentiment d'impuissance, de déconnexion, d'échec de la politique, de n'avoir rien vu, puis de n'avoir rien compris ?
Non, enfin, moi je crois pas du tout. D'abord, on a... quand on écrit cette formule, on le dit sur le déclenchement de la crise. Mais on dit aussi dans le chapitre quelles sont, selon nous, les raisons de l'apparition de cette crise. Les raisons sous-jacentes... propres à notre pays et celles qui ne sont pas propres à notre pays.
Mais que personne n'a vu venir, ni les politiques, ni les médias, par ailleurs.
Vous savez, c'est souvent le cas, au sens où, quand vous avez le sentiment que quelque chose de très puissant est en train de se produire, et que, à chaque instant, cela peut se révéler, voire exploser, vous pouvez dire, c'est en train d'arriver, et il ne se passe rien. Et puis un jour, il y a soit la fameuse coup d'eau qui fait déborder le vase, soit la fameuse étincelle qui met le feu à une campagne très sèche. Enfin bon, bref, on peut le dire de toutes les façons qu'on veut. C'est ce qui se passe. Vous ne savez pas très bien dire quand est-ce que ça va se passer, ni d'ailleurs ce qui est susceptible de le provoquer. Mais le fait que la société française était dans une forme de très grande crispation, de très grande inquiétude, de très grande insatisfaction face à la peur du déclassement individuel et du déclassement collectif, non seulement nous le savions, mais ça faisait partie des éléments qui avaient été évoqués pendant la campagne présidentielle par le président de la République, alors candidat. Ces sous-jacents-là, on les voit. Quand est-ce que ça part? Et sur quoi ça part? Et une fois que c'est parti, comment est-ce que ça s'arrête?
C'est beaucoup plus compliqué. Et tout ça se vit, toutes ces décisions se prennent dans un contexte de pression médiatique permanente que vous décrivez assez sévèrement d'ailleurs. Tout fait polémique, tout fait débat, tout appelle réaction, si possible immédiate, si possible outrée. Une image, un bout de phrase placé sous la loupe de la chaîne d'info et magnifié par un plateau d'indignés, et l'affaire est faite. Remplir l'antenne n'est pas si difficile, il faut produire en masse de l'excès et du vide. Est-ce que cette furie médiatique permanente est une entrave à gouverner ?
Alors, je ne crois pas que ce soit une entrave, c'est une donnée. Et c'est une donnée qui est contraignante. Et il faut l'intégrer parce que, en réalité, ce qu'on visait avec Gilles en dénonçant cela, c'est pas évidemment l'existence des chaînes d'infos en continu ou même évidemment le contrôle de la presse, pas du tout. C'est la qualité du débat public. C'est-à-dire le fait qu'on a le sentiment, et moi je l'ai très profondément, que la qualité du débat public... décroît considérablement depuis des années, et qu'on passe en effet plus de temps à parler du bout de phrase sorti de son contexte, de l'élément peut-être spectaculaire mais qui au fond n'est pas le cœur des vrais sujets dont on devrait parler et regarder l'actualité. Alors, je ne le dis pas du tout pour votre émission. Je dis regardons l'actualité et voyons le temps qui est consacré sur toutes les antennes, sur des éléments qui sont des petites polémiques au regard de sujets qui sont des vrais sujets.
Alors, Gilles Boyer, vous qui avez été conseiller en communication avant d'être député européen, on est obligé aujourd'hui de gouverner le nez collé à BFM, pour dire les choses familièrement ?
On n'est pas...
Ou l'oreille collée à RTL.
Ou RTL, bien sûr, aux médias.
On est obligé à rien, mais c'est vrai que dans nos métiers, l'échelle de temps, c'est devenu la journée, dans le meilleur des cas. Et c'est d'ailleurs un problème en soi. Ne pas savoir quels sont les sujets qui sont au-dessus de la pile le jour donné, c'est probablement une faute professionnelle. Et après, agir uniquement en fonction de ça est probablement aussi une autre faute professionnelle. Mais ça fait partie, comme le dit Édouard, des données de notre système tel qu'il est devenu. Il faut qu'on s'adapte.
À qui souhaite gouverner, nous conseillons vivement de regarder ces chaînes d'information en continu autant que nécessaire dans la phase de conquête du pouvoir et aussi peu que possible lorsqu'il s'agira de l'exercer, écrivez-vous aussi. Il y a évidemment un sujet qui nous passionne, nous les médias, ce sont les rapports humains et particulièrement ceux qui peuvent exister entre un Premier ministre et son Président de la République. On peut changer de Premier ministre sans changer de politique, mais on peut aussi changer de politique sans changer de Premier ministre. Celui-ci peut rester ou partir sous la contrainte politique. Certains sont partis alors que le Président, au fond, aurait voulu les garder et d'autres sont restés alors que le président, au fond, aurait aimé les changer. Vous avez à peu près balayé tous les possibles.
Ça, je veux dire.
Vous êtes dans quelle catégorie, Edouard Philippe ?
Je ne sais pas. Mais
non, si, vous savez.
Écoutez, moi j'ai raconté dans le livre, c'est d'ailleurs un exercice intéressant, dans le livre Nous nous sommes interdits, je me suis interdit, et Gilles a évidemment partagé ce choix, parce que c'était un choix fondamental, je me suis interdit de raconter les échanges, les conversations que j'avais avec le président de la République.
C'est votre ressenti que je vous demande,
oui,
c'est
oui,
pas
oui.
Les...
Non mais parce que j'explique à ceux qui pourraient être intéressés par le livre que ça n'est pas un livre croustillant, où on voit des anecdotes sur des échanges que j'aurais eus avec le président. Les échanges étaient d'ailleurs, je dois dire, toujours de bonne qualité, très confiants, très fluides, et souvent d'ailleurs très détendus. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Moi, je dis dans le livre que, assez tôt, avant l'élection, le deuxième tour de l'élection municipale, j'ai indiqué au président de la République que, quel que soit le résultat de l'élection municipale, je lui remettrai la démission, ma démission et donc celle du gouvernement.
Ce que vous avez fait, et il l'a accepté.
Non, ce n'est pas ce que j'écris dans le livre. Je lui ai dit ça. J'ai préparé ma lettre de démission et lorsque l'entretien a commencé avec le président de la République, il a, et je le dis d'ailleurs avec élégance, c'est le terme que j'emploie dans le livre, indiqué qu'il avait pris la décision de changer de Premier ministre. Il savait que de toute façon, j'étais avec ma lettre de démission et je lui ai d'ailleurs remis immédiatement. Et il m'a très... Il n'était pas du tout obligé de le faire. Il m'a indiqué qui serait mon successeur. Il m'a d'ailleurs fait part d'un certain nombre d'éléments sur la composition du gouvernement. Nous avons convenu de ne pas en parler jusqu'au lendemain. C'est ce qui a été fait. Est-ce que c'était bien de sa part de changer de Premier ministre? C'est pas... Vous pensez bien à moi de le dire.
Moi, je ne vous pose pas la question.
D'ailleurs, je serais le moins bien placé pour y répondre. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une décision qui est une... Ça fait partie des très nombreuses décisions très difficiles que doit prendre le président de la République. Et c'était parfaitement et son droit et son analyse. Et c'est comme ça. Et ça a été, je dois dire, fait proprement. Vous ne m'avez jamais entendu critiquer cette décision. D'ailleurs, je ne la critique pas. Ça a été fait proprement et je crois correctement.
Gilles Boyer, est-ce que votre ami Édouard Philippe aurait aimé qu'Emmanuel Macron le retienne ?
Je crois qu'Édouard vient d'une certaine manière de vous répondre. Le problème ne se pose pas en ces termes. La nomination du Premier ministre, c'est la prérogative du président.
C'est une de ses premières décisions.
Et il a fait un choix révolutionnaire.
Mais il y a le choix politique et il y a l'humain. C'est une blessure ou pas ?
Non, je crois pas. Je crois pas. Enfin, d'abord, c'est pas. Je suis pas dans le corps d'Edouard.
Non, mais c'est pas.
Je le confirme. C'est une blessure, Edouard Philippe.
Non, je
ne
crois pas que ce soit
pas.
Une blessure. C'est une décision.
Non, c'est pas une blessure.
C'est une décision que prend le président en fonction des paramètres dont lui seul a connaissance de la totalité, et c'est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, je crois que Edouard, tout au long de son bail à Matignon, avait tout à fait conscience de la précarité de la fonction, parce que nous connaissons notre histoire, nous connaissons l'histoire de la Ve République, avec le passage du livre que vous avez lu et rappelé. Et,
on le dit et dans très le livre, tôt, oui. On dit qu'il y a beaucoup de moments où il aurait pu être envisagé, par le président de la République, de changer de Premier ministre. Ça aurait pu arriver. On aurait pris un énorme gadin, si vous me passez cette expression, au moment des européennes. Peut-être que le président de la République aurait trouvé utile de changer de Premier ministre à ce moment-là. Il se trouve que ça n'est pas été le cas.
Vous êtes arrivé deuxième derrière le Rassemblement national. Vous parlez des ministres qui ont marqué la République. Vous citez Pierre Bérégovoy, André Malraux, Robert Badinter, Simone Veil, Jack Lang, Nicolas Sarkozy du temps où il était à l'intérieur, Christiane Taubira. C'est ce qu'aurait pu être Nicolas Hulot s'il avait réussi à maîtriser son ministère. Est-ce que vous lui en voulez ? C'est quoi ? C'est une rencontre qui ne s'est pas faite ? C'est quoi le problème Hulot-Philippe ?
Moi, je considère qu'il n'y a pas de problème Hulot-Philippe du tout. Et d'ailleurs, on dit des choses, je crois, assez gentilles sur Hulot, un peu à plusieurs endroits dans le livre, parce que c'est quelqu'un qui est...
Vous parlez de son manque d'empressement expliqué à défendre la taxe carbone, par exemple, pour laquelle il a tant plaidé, et pour nous un grand mystère, comme s'il constatait trop tard qu'un ministre ne pouvait pas annoncer que des bonnes nouvelles. En termes de trucs sympas, évitez d'écrire sur moi, s'il vous plaît.
Mais il y a des choses qui sont sympathiques, parce que c'est quelqu'un qui est d'abord tout à fait sympathique, et en plus très pénétré de l'idée de cette urgence à la transition écologique, et sincèrement convaincu. Donc comme c'est quelqu'un qui est sincèrement convaincu, il veut, si j'ose dire, tout de suite. Or la politique, c'est rarement tout de suite, c'est une affaire de choix. Et comme on le dit, choisir, c'est renoncer. Donc il faut trouver ce qui est le plus important et le plus urgent. Et tout n'est pas le plus important et le plus urgent. Il faut hiérarchiser les priorités et ensuite concentrer les moyens sur ces priorités. C'est un exercice qui est redoutablement difficile.
Qui demande beaucoup de courage.
Qui demande beaucoup de courage. Ouais, qui demande
il
beaucoup
en a
de courage.
Manqué.
Non, mais il a eu beaucoup de mal à... Mon sentiment, c'est qu'il n'a pas aimé être ministre. Et comme c'est une occupation assez difficile, si en plus vous n'y prenez pas, si ça n'est qu'un chemin de souffrance,
alors vraiment c'est très difficile. Et je pense que l'évolution permanente dans l'environnement politico-administratif, dans la pression de la presse, dans les contraintes qui s'exercent, était pour lui infiniment plus difficile à supporter que pour d'autres, et qu'il n'a pas su, et c'est pas une critique, c'est un constat, il n'a pas su faire ce que parfois dans d'autres domaines, d'autres ont su faire, c'est-à-dire incarner tellement une politique, faire des choix tellement audacieux qu'ils produisent un effet dans la durée. Et c'est, pardon, mais c'est pour ça que je le compare au ministre que vous avez cité, et notamment à Pierre Bérégovoy, pour qui j'ai une très grande admiration.
Ce que vous dites, c'est ce qu'aurait pu être Nicolas Hulot, un grand ministre. Vous développez, on n'aura pas le temps de le faire ce soir, vos deux grands sujets d'angoisse. Il y a la dette climatique parmi ces sujets, et la dette financière. La Convention citoyenne sur le climat, vous n'avez pas aimé. Il ne nous apparaît jamais très bon signe de s'en remettre au sort. Et puis, il y a la question des conseils de...
Pardon, Thomas Soto, mais vous allez un peu vite.
C'est vrai que le livre fait 417 pages. Alors
ouais, c'est très bien. Non, mais ça veut dire qu'il faut le lire, bien entendu.
Absolument.
Nous écoute, mais
non, lisez-le, parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il était un peu ennuyeux et pas croustillant.
Alors c'est du tout.
Non, mais j'ai vu la tête de Gilles Boyer.
C'est vrai dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. Du coup, ce que je veux dire, c'est que la Convention citoyenne, il n'est pas du tout scandaleux de demander à des gens, y compris tirés au sort, de donner leur avis.
Oui.
Très bien. Je pense que dire que des gens, parce qu'ils ont été tirés au sort. Et parce qu'ils sont encadrés par toute une série d'acteurs qui sont probablement très convaincus et probablement très experts dans leur sujet, deviendraient une source de légitimité qui serait soit comparable au Parlement, soit comparable à des expertises scientifiques. Hein. Je trouve que ça, pour le coup, ça me paraît un peu excessif. Mmh. Et c'est vrai qu'on a dans le livre une formule qui dit que pour les choses importantes, s'en remettre au sort n'est pas forcément notre préférence.
Quelques questions d'actualité, notamment sur ces fameux conseils de défense. Un certain reproche à Emmanuel Macron d'en user, d'en abuser. Est-ce que vous êtes complètement à l'aise, vous qui êtes un parlementaire européen, Gilles Boyer, avec ça, ces conseils de défense ?
Moi, je suis très à l'aise. Je suis parlementaire européen aujourd'hui. J'ai accompagné Edouard dans des fonctions exécutives importantes. J'ai constaté que dans certains moments très particuliers de l'histoire du pays, il faut pouvoir échanger et prendre des décisions ou les esquisser dans un espace où la discrétion est absolue. Alors que nous vivons dans un monde où il est très difficile, et certains trouvent ça très bien, de garder quoi que ce soit secret. Mais dans tous les cénacles, dans vos rédactions peut-être, dans nos familles, c'est pas très différent du monde politique. On a des espaces de discussion qui sont libres, mais si ce qu'on disait sortait à l'extérieur, ça ferait pas forcément très bon effet.
Ouais,
la politique,
pour autant,
c'est pas forcément différent.
Pour autant, la crise sanitaire ne peut pas mettre la démocratie entre parenthèses. Ça, c'est vous qui l'avez dit, Édouard Philippe.
Oui, à propos de la tenue des élections.
Oui. Et pas ça, ça ne rentre pas là-dedans sur le Conseil sanitaire ?
Pas à propos du Conseil sanitaire, qui est un organe de gestion de crise. Il n'est pas anormal qu'il y ait des organes de gestion de crise. Ce qui est vrai, c'est que la démocratie, c'est un process. Et c'est une exigence qui doit être permanente. Et les élections, quand on va voter, ça n'est pas comparable à quand on va faire une course. Il y a des gens qui préfèrent aller faire des courses qu'à aller voter. Ça peut s'entendre, c'est peut-être plus agréable. Mais dans une démocratie, ça n'est pas la même chose. Et aller voter, c'est important. Et donc, je le dis à propos de la décision qui a été prise de maintenir le premier tour des élections municipales en mars, et qui est une décision qui a suscité beaucoup de questionnements, d'interrogations, parfois de critiques vives même. Et on essaie d'expliquer comment elle s'est prise et pourquoi elle s'est prise. Et au fond, c'est intéressant, au-delà des polémiques, au-delà du traitement très immédiat et peut-être même un peu spectaculaire d'un sujet, c'est assez intéressant, me semble-t-il, de se poser, quelques mois après, d'écrire la façon, les circonstances, le comment la décision a été prise. Et moi, je crois que nos concitoyens, ça les intéresse de savoir ce qui se passe dans la tête, dans les contraintes accumulées, de quelqu'un qui doit prendre une décision en ce moment-là.
On a encore beaucoup de questions à voir ensemble. Question de Yves de Rouen. Est-ce que vous êtes choqué de voir Brune Poirson, qui est sortie du gouvernement en même temps que vous, abandonner son mandat de députée avant la fin de son mandat pour aller travailler dans le privé ?
C'est son choix le plus strict. Elle a respecté l'ensemble des procédures qui doivent être respectées quand on passe d'une fonction publique à une fonction privée. Si elle le fait, c'est que ces instances qui ont été consultées ont donné un avis favorable. La loi a été respectée. Mmh. Je sais bien.
Il y a la loi, il y a l'esprit de la
oui,
loi.
Oui, je sais bien qu'en France, on aime bien crucifier les gens quand la loi n'est pas respectée. Et puis une fois qu'on a dit ça, même quand la loi est respectée et qu'on se dit que bah oui, mais c'est pas la loi, c'est la loi. Elle a respecté la loi et elle a choisi d'aller travailler dans une entreprise française.
Mais vous quitteriez votre mandat de maire, vous quitteriez votre mandat de européen en cours de député européen en cours de route comme
Écoutez, j'ai fait beaucoup de politique dans ma vie, j'ai eu quelques passages dans le privé, soit de manière choisie, soit de manière subie. C'est la vie, il faut dédramatiser ça, d'accord? L'idée que, et d'ailleurs, si Brune Poirson avait décidé de faire de la politique pendant les 30 prochaines années, je suis certain qu'on l'aurait critiqué aussi également, parce que on attend aussi une forme de renouvellement. Et l'idée d'exiger à des personnalités politiques qu'elles n'aient rien fait avant leur mandat, parce qu'elles sont soupçonnées de conflit d'intérêts.
C'est ce que vous dites dans le livre, ça.
Oui, on le rappelle dans le livre. Et qu'elles ne fassent rien après, c'est une...
Sauf que là, on n'était pas complètement après, le mandat n'était pas terminé.
C'est une négation.
Qui interroge...
Oui, mais comme l'a dit Edouard, elle a respecté les règles en vigueur. Enfin, je veux dire, c'est un débat qui me semble tout à fait baroque.
Alors, on va passer à la suite, si c'est baroque. Vous dites votre attachement à notre défense, à nos armées. Et à propos d'armées, on a une question de Jean-Michel de Toulon. Qu'auriez-vous répondu et que répondez-vous à ces militaires qui ont écrit une tribune alarmante sur l'état de notre pays, Edouard Philippe?
Que... Tout à l'heure, je vais répondre à votre question. Je commence par une incise. Tout à l'heure, on disait que c'était curieux, dans notre pays, la capacité qu'on avait à consacrer du temps à des polémiques qui n'apportaient que de façon très accessoire des sujets de fond.
On est sur l'écume des vagues, là ?
Oui.
Ouais.
Moi, j'en suis convaincu. Je veux dire...
Et pourtant, ça a fait réagir plusieurs ministres, ça a fait réagir le Premier ministre.
Non, je vais vous dire. Ce qui est extraordinaire, c'est que on a critiqué le gouvernement parce qu'il ne réagissait pas immédiatement. Je pense que finalement, on le critiquera parce qu'il aurait trop réagi. Moi, derrière tout ça, j'ai deux ou trois questions qui m'intéressent et dont je pense qu'elles sont plus importantes que cette tribune. La ministre a dit qu'elle regarderait ce qu'il faut en faire. Je fais entièrement confiance à la ministre pour le faire. Quelle est la place des armées dans notre nation? Et d'ailleurs, quel est le lien entre nos armées et la nation? Le service militaire a disparu. On consacre un long chapitre à ces questions de défense dans le livre. Il a disparu. Comment est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'armée? Comment est-ce que les Français connaissent la chose militaire? Très peu. Ça n'est pas une bonne chose. Parce que c'est une institution, l'armée, qui a un rôle très particulier. Elle est constituée de femmes et d'hommes absolument remarquables, qui savent que l'utilisation politique de ce qu'ils sont est toujours une mauvaise chose. Il y a un sens du service dans les armées françaises qui est exceptionnel. Et je peux vous dire que ce n'est pas simplement des mots. C'est la possibilité de donner sa vie pour des missions qui sont définies par le pouvoir politique. Et donc, moi, j'ai un infini respect pour l'institution militaire. Je pense, et c'est ce que je comprends des conversations que j'ai avec un certain nombre de mes amis militaires, que les militaires d'active, comme le dit la tribune, supportent très mal d'être instrumentalisés au service d'une cause politique. Que des anciens généraux, capitaines, je ne sais quoi, s'expriment sur la vie de la nation, c'est parfaitement leur droit. Qu'ils se présentent à des élections, c'est parfaitement leur droit, et je pense même que dans un débat politique, c'est sain. Qu'ils prennent à partie l'institution militaire en se réclamant d'une forme de légitimité sur l'institution militaire, ça, je trouve ça très choquant.
Et Marine Le Pen les a soutenus. Hier, Marlène Schiappa, votre ancienne ministre qui était ici présente, a dit que le Rassemblement National était un parti de putschistes.
Reconnaissez avec moi, je ne pense pas que ce soit le fait de ceux qui ont écrit la tribune, ni de ceux qui l'ont publié, mais reconnaissez avec moi que des généraux, d'anciens généraux en l'occurrence, qui publient le jour du 60e anniversaire du putsch d'Alger, une tribune qui comporte un certain nombre d'éléments consistant à dire que ça ne va pas être possible et que les militaires d'actifs doivent... Oui, je comprends qu'on fasse le parallèle. Alors, je ne crois pas, encore une fois, qu'ils aient choisi de la publier à cette date.
Non, mais sur le Rassemblement National, parti de putschistes.
Ben je pense que dans ces moments, il y a beaucoup de moments où Mme Le Pen adoucit à la fois son visage et son propos. Je pense que dans ces moments-là, on voit, je ne dis pas du tout, je ne l'accuse pas de putsch, elle, bien entendu, on voit qu'il y a des racines historiques, intellectuelles, peut-être personnelles, qui les placent plus du côté de ceux qui, en 1961, ont considéré que la République et la démocratie n'avaient plus leur place, et moins du côté de ceux qui ont justement maintenu cette République. il se trouve qu'entre ces deux tendances, entre ces deux idées de la France, Gilles et moi, on a choisi, on est plutôt du côté de ceux qui ont fait valoir la démocratie, la légalité, la République et la France.
Il y a un point sur lequel elle a déjà gagné un peu, c'est sur le thème de l'insécurité qui va visiblement être un des thèmes majeurs de la campagne électorale de l'année prochaine. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de placer d'ores et déjà la campagne sur ce terrain-là ? Est-ce que c'est pas foncé dans le piège de Marine Le Pen ?
Je ne raisonne pas sur ces questions qui sont sans doute très intéressantes, mais moi je ne suis pas dans le commentaire des tactiques. Je pense que la question de la sécurité est une question importante que se pose avec acuité et parfois avec beaucoup de difficultés de nos concitoyens, qu'il faut y réfléchir de façon très globale, en réfléchissant aux effectifs qui ont augmenté de policiers et de gendarmes, en réfléchissant aux moyens qui ont augmenté, qui leur sont donnés à disposition pour remplir leur mission, en réfléchissant à l'articulation entre leur mission et la justice, à l'équilibre entre la prévention et la répression. Et tous ces sujets-là sont redoutablement complexes. Je suis certain que la moins bonne façon de les régler, c'est de les agiter en l'air avec des idées faussement simples.
C'est pas Emmanuel Macron que vous dites ça ?
Pas du tout.
Ah d'accord.
En aucune façon.
Question de Jocelyne. Quelle est votre étiquette politique aujourd'hui, Gilles Boyer ?
Je n'appartiens aujourd'hui à aucun parti politique.
Et vous êtes dans le groupe Renew ?
Je suis dans le groupe Renew au Parlement européen, exactement, avec mes amis de la délégation Renaissance, avec laquelle nous avons constitué une liste de larges rassemblements politiques au moment des élections européennes, qui aurait gagné et gagnerait à être reconduite et élargie probablement à l'avenir. Oui.
Édouard Philippe, quelle est votre étiquette politique aujourd'hui ?
J'imagine que je dois être classé... Je ne sais pas très bien d'ailleurs comment... Vous savez, souvent les préfectures classent les gens. Je ne sais pas très bien comment ils me classent parce que...
Vous ne connaissez pas votre étiquette ?
Ben, je ne suis pas sûr, non, puisque je ne suis membre d'aucun parti politique. Le seul parti politique dont je suis membre, Thomas Soto, est un parti politique qui est... totalement prééminent sur la scène nationale, puisqu'il s'appelle Le Havre, avec un point d'exclamation, et qu'il n'est ouvert qu'aux membres de la majorité municipale du Havre. Donc vous voyez, en termes d'étiquette politique, c'est à la fois très précis, très clair, et peut-être finalement...
On va vous aider à y voir clair, on va faire un qui vote pour qui, d'accord ? Imaginons l'année prochaine, Emmanuel Macron face à Xavier Bertrand, votre camp c'est quoi ?
Attendez, là vous voyez, on tombe dans un travers, c'est curieux parce que jusqu'à présent on a traité les sujets par le haut.
On va pas ça tomber. C'est facile pour ne pas répondre à une question.
Non, mais moi j'assume le fait que j'ai pas envie de répondre à des questions quand je pense qu'elles ne traitent pas les sujets comme il faut les traiter. C'est pas du tout une critique que je vous fais.
Alors je vais poser la question différemment.
Vous savez l'estime que je vous porte.
Et c'est Joël qui vous la pose. Quelles sont vos différences avec Xavier Bertrand aujourd'hui ? Ça, c'est une vraie question.
Je connais bien. Je connais depuis longtemps. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris ce qu'il disait sur les sujets sur lesquels il est sorti dans son annonce de candidature à la présidentielle. Je ne sais pas si c'était la présidentielle ou la régionale. Mais j'ai pour lui... vous savez, je le connais depuis... On le connaît avec Gilles depuis 20 ans. On a eu des combats communs. On a, je pense personnellement, une certaine estime. On a eu des désaccords stratégiques, politiques, tactiques, assumés. Il n'a pas été tendre toujours avec le gouvernement que j'avais l'honneur de diriger. Je n'ai pas toujours été probablement tendre avec des réformes qu'il avait voulu entreprendre. Bon, voilà, mais ça n'empêche pas... Moi, vous savez, je pense que le débat public, c'est sain, c'est indispensable dans une démocratie. Très bien.
Gilles Boyer, c'est un opposant pour vous aujourd'hui, Xavier Bertrand ?
C'est un opposant au président de la République et au gouvernement,
ça, oui, absolument.
Que vous soutenez tous les deux.
Mais si vous voulez cette... Pardon ?
Que vous soutenez tous les deux, le président de la République.
Mais attendez, j'ai été chef du gouvernement pendant 3 ans avec une majorité qui ne m'a jamais fait défaut. Je ne veux pas commencer à leur expliquer que ce qu'on a fait ensemble, ce n'était pas bien. Mais est-ce qu'on peut, dans ce pays, accepter l'idée d'une forme de cohérence intellectuelle qui fait que quand vous faites quelque chose, bah, vous l'assumez. Moi j'ai assumé mes choix, certains étaient bons, d'autres étaient plus contestables.
Et vous êtes loyal, loyal au chef de l'État.
Et libre.
Il a toujours été loyal avec vous, lui ?
Il ne faut pas inverser l'ordre des facteurs. Il y a un couple exécutif, un président et un premier ministre. C'est les institutions qui ont prévu ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas le président de la République. C'est les institutions. Ce couple, les deux branches de l'exécutif ont du pouvoir, doivent prendre des décisions. Mais enfin, il y a une prééminence du président de la République. C'est la clé de voûte des institutions, c'est comme ça que le général de Gaulle les a conçues, et c'est comme ça que moi, je les lis, et que je souhaite qu'elles soient mises en œuvre.
Dans un autre registre, question de Sophie Duhavre, qui est une de vos administrées. Le HAC, le Havre Athletic Club, le club de foot, est à vendre. Elle dit que le club a 10 millions de déficits. Est-ce que vous allez casser votre tirelire pour aider notre club à ne pas mourir ?
Alors d'abord, je vais faire comme je fais souvent quand il s'agit d'argent public, je vais faire attention.
Ouais.
Je pense que si Sophie pose la question, c'est qu'elle est autant que moi attachée à ce club qui va fêter l'année prochaine son 150e anniversaire. C'est le plus vieux club de football de France. Et donc, on est évidemment très attachés. Moi, j'ai des entretiens réguliers avec le président du HAC. Je sais que le modèle économique du football est en lambeaux.
Ouais.
Plus personne dans les stades. Des droits de retransmission qui ne rentrent plus parce que le football professionnel s'est lui-même placé dans une situation impossible. Mmh. C'est pas de la faute d'un gouvernement. Le football professionnel s'est lui-même placé dans une situation impossible dans des contrats qu'il a choisi librement de négocier. Et des difficultés liées au transfert des joueurs pour les clubs de Ligue 2. Et il se trouve que comme au HAC, on a un centre de formation, on a beaucoup plus de mal à vendre les joueurs, les jeunes joueurs, vers le Royaume-Uni. Donc le modèle économique est en lambeaux. Il va devoir se réinventer. Discuter avec les clubs de foot, c'est indispensable si on n'a pas envie qu'ils s'écroulent tous. Mais utiliser l'argent public à bon escient. Pour des investissements, oui, mais à bon escient. Encore une fois, je sais qu'aujourd'hui, l'argent coule à flot, paraît-il. Oui, l'argent coule à flot.
Donc il n'y aura pas forcément de quoi qu'il en coûte pour le club de foot du Havre.
Les dettes coulent à flot et moi j'essaie d'être soucieux de l'argent public. Mmh.
On arrive presque au bout de cet entretien. Il y a 20 ans, écrivez-vous, un quinquagénaire était vieux dans la vie et jeune en politique. Désormais, c'est l'inverse. Gilles Boyer, faudrait-il estimer, comme aux États-Unis, qu'une fois qu'on a gouverné, qu'on a fait son temps, que son temps est passé, il faut passer à autre chose?
Ben, ça vient à contredire, pardon, la question que vous posiez sur Brune Poirson, hein, parce que vous devriez la féliciter.
Mais j'ai pas d'avis, moi je pose des questions.
De passer à autre chose. Mais c'est un débat sans fin, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre la vie politique américaine et la vie politique française, même si celle-ci a connu beaucoup de changements, hein, et quand j'ai commencé la politique, je pensais qu'il fallait avoir été candidat trois fois à la présidentielle avant d'espérer la gagner. Au contraire, c'était des carrières très longues, alors que là, nous venons d'élire trois présidents de suite qui étaient candidats pour la première fois, donc ouais. Tout évolue et tout change.
Édouard Philippe, là-dessus?
Moi, j'ai tendance à penser que dans toute la mesure du possible, même s'il y a un certain nombre de règles qui enserrent tout ça, dans toute la mesure du possible, il est assez utile de laisser l'électeur libre de choisir. Je ne suis pas sûr qu'il faille normer ça.
D'accord.
Peut-être qu'il y a des gens qui, après un échec électoral, choisiront de passer totalement à autre chose. C'est très respectable. Peut-être qu'il y a des gens qui, après un échec électoral, considéreront qu'un échec, ça n'est pas rédhibitoire, et qu'il faut continuer, parce qu'on a encore des choses à dire, qu'on a encore des choses à proposer. Et pourquoi est-ce que vous voudriez interdire... D'ailleurs, vous ne voulez rien, en l'occurrence.
Vous l'avez bien compris que je
non,
veux
mais
rien.
Bien sûr. Non,
mais ça me rassure, après une demi-heure.
Pourquoi est-ce qu'on voudrait interdire, ou dire que ce ne serait pas bien, de laisser ce choix aux électeurs? Et une élection, une démocratie, c'est ça. C'est des femmes et des hommes qui pensent qu'ils ont quelque chose à proposer et qui essaient d'expliquer ce qu'ils veulent proposer. Et c'est des électeurs qui font des choix. Et c'est très important.
Voilà. Gilles Boyer, vous le voyez où, Édouard Philippe, dans 5 ans?
J'espère qu'il sera heureux parce que c'est mon ami.
C'est pas mal ça. Vous avez autre chose, hein? Vous développez un peu?
Non, réponses courtes sont parfois suffisantes.
C'est vrai. Il paraît que pour connaître votre état d'esprit, Édouard Philippe, il faut toujours jeter un petit coup d'œil sur vos boutons de manchette. Alors, je sais pas, il raconte quoi aujourd'hui? Ah, LH.
Aujourd'hui, j'ai des boutons de manchette qui sont en forme de lettres, les deux lettres qui s'appellent
Le Havre.
LH, qui est Le Havre.
Ça aurait pu être République française, RF ou...
J'en ai quelques-uns, ça aurait pu être plein de choses, mais sauf que c'est ça. Je n'ai pas calculé le truc en me levant ce matin, pour vous dire la vérité.
En politique, il faut tout préparer, souvent planifier, partir de loin et ne jamais être surpris si le calendrier que l'on s'est fixé ne respecte rien. Merci à tous les deux, Gilles Boyer, Édouard Philippe, d'être venus ce soir dans RTL Soir. Il y a encore beaucoup de thèmes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans votre livre, notamment celui sur la tyrannie de la transparence, qui est particulièrement intéressant. Il faut bien qu'on en laisse un peu au lecteur, quand même.
On vous en remercie, du reste.
Votre livre s'appelle donc Impression et ligne claire, il est publié chez Jean-Claude Lattès. Merci à vous d'être venu.
Merci beaucoup.
À tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir.